dans le magazine Médor, que l'on peut retrouver dans les bons kiosques d'ailleurs. Médor, membre du collectif Kiosque, dont nous parlons régulièrement dans cette émission. N'hésitez pas à aller voir par curiosité, pourquoi pas vous abonner, puisque cette fois-ci, dans le magazine Médor, on retrouve un large dossier que vous avez consacré au data center qui s'implante en Wallonie, des centres de données qui mettent la Belgique sous tension. Un article que vous avez écrit avec Quentin Monarfalis et Janine Meyer. Alors c'est vrai que c'est pas forcément connu de tout le monde qu'on a un énorme data center depuis plusieurs années en Wallonie.
C'est ça, il se situe à Saint-Guilain, c'est à côté de Mons, et donc ils sont là depuis 2007. Ils sont arrivés un peu en stumbling, comme on dit au départ, avec un faux nom, Crystal Computing, et puis la région wallonne a dit bon, c'est qui ces gens-là? Boum, finalement on a découvert que c'était Google. Ils sont là, ils sont bien là, ils se développent, ils sont en train de construire 4 nouveaux hyperscalers. Alors un hyperscaler, je vois vos yeux, vous ne savez pas ce que c'est, je vous explique.
J'ai été
Moi, je ne sais pas.
Voilà, donc je vous explique à vous. C'est un hyperscaler, c'est donc un data center nouvelle génération spécialisé pour l'IA générative. Donc, c'est des trucs qui vont aller encore plus vite, encore plus fort pour nous répondre combien faut-il d'eux dans ma frittata. Et le problème, c'est qu'évidemment, s'ils sont plus forts, plus grands, ils sont aussi plus énergivores. Et donc là, on a des super ogres énergétique qui débarque là maintenant dans le borinage.
Et je me rappelle quand il y a eu ce changement de nom, quand on a appelé ça Google, finalement le data center Google, il y a plein de gens qui disaient oh, formidable pour la Wallonie, ça va créer de l'emploi.
Ben ça c'est une question que soulève notamment l'enquête, c'est qu'effectivement c'est ce qu'on nous répond et c'est ce qu'ont répondu ces 20 dernières années les politiques à toutes les interrogations environnementales, climatiques et compagnie. Les politiques ont toujours répondu non mais vous inquiétez pas, ça fait de l'emploi. Alors on a essayé de connaître les chiffres officiels, c'est compliqué. Comme dans cette enquête, vous l'avez certainement lu, il y a un manque de transparence totale. Aujourd'hui, il y a effectivement eu des créations d'emplois souvent indirectes, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour le gardiennage, pour faire les jardins autour des data centers, etc. Le nombre de Belges qui sont aujourd'hui travailleurs chez Google Belgique dans les data centers, on ne sait pas. Plusieurs centaines certainement, mais pas les milliers qu'on imaginait avoir au départ quand ils sont arrivés.
Or ça faisait partie des promesses, promesses qu'ils continuent d'ailleurs à brandir, notamment puisqu'il est question d'extension de ce data center qui est présent, et vous ne parlez pas d'ailleurs que de Google, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent.
Oui, Microsoft à Bruxelles.
Mais en ce qui concerne celui-là, en tout cas, c'est le cas, mais dans leurs chiffres, ils tiennent compte aussi effectivement, par exemple, de tous les ouvriers qui viennent travailler sur l'extension de ce data center. Donc, est-ce qu'on peut véritablement parler de création d'emplois? Non, mais d'expansion d'emplois, pas vraiment non plus.
Mais non, parce que là aussi, on a été, nous, sur les chantiers, on a essayé, parce qu'on a eu porte-close à chaque fois, évidemment, en demandant gentiment, en essayant un peu, en allant en disant « Bonjour, je me suis perdue, est-ce que je peux venir ?» Donc, ça n'a rien à fonctionner. Rien n'a fonctionné. Mais donc, par contre, ce qu'on a pu constater et ce que pas mal de syndicats dénoncent aujourd'hui, c'est du dumping social, qui n'est pas réalisé directement par Google, mais par les sous-traitants qui l'emploient pour faire ces chantiers. Les riverains, parce qu'on a été aussi beaucoup à la rencontre des riverains pour un peu comprendre comment eux vivent l'arrivée de ce monstre, parce qu'il faut comprendre. Le Google qui est en train d'être construit à Farciennes, c'est 43 000 places de parking. À Farciennes, il est un peu décentré de la ville, on ne le voit pas bien. Mais à Saint-Guilain, il est au bout des jardins. Donc imaginez-vous un mur de 11 mètres de haut qui représente 43 000 places de parking et qui avance vers vous. On a été à la rencontre de ces gens-là qui nous ont dit toutes leurs inquiétudes et puis qui nous ont dit, nous en plus, on ne voit pas de Belges venir, on n'a pas de frères, de sœurs, de copains, de collègues, de voisins qui travaillent. Par contre, on voit des dizaines de camionnettes roumaines, polonaises, irlandaises, etc. J'ai été campée, moi, devant une maison où on pensait qu'ils étaient logés, et c'est effectivement ce qu'on a découvert. Il y a toutes des maisons louées dans la région de Mons par les sous-traitants de Google pour des gens qui viennent d'Irlande. J'ai eu une discussion avec un Irlandais pendant plusieurs minutes et qui m'explique oui, on fait ça. Lui, il va de pays en pays construire les data centers de Google. Donc, même à ce niveau-là, l'emploi, ça ne matche pas, quoi.
Au fond, vous ne dites pas qu'il n'y a effectivement pas de création d'emploi ou qu'il n'y a pas une activité économique qui peut bénéficier de l'implantation. Ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas pas les moyens de le chiffrer parce que effectivement il y a un grand manque de transparence en matière d'information. Manque de transparence aussi sur deux des enjeux majeurs aujourd'hui dénoncés à propos des data centers, c'est la consommation d'énergie, la pression sur le réseau électrique, mais aussi la pression sur la consommation de l'eau. Et ce sont aussi deux aspects que vous avez essayé quand même de creuser un petit peu avec des chiffres qui sont parfois très alarmants. Alors en matière d'électricité, les fournisseurs électriques, et ça j'étais très surprise de le lire, mais dès le départ les fournisseurs électriques avaient des doutes, alors qu'on parlait encore que d'un petit entre guillemets data center et que l'IA n'était pas encore véritablement implanté, mais déjà les fournisseurs d'énergie avaient des doutes quant à la capacité de pouvoir fournir toute l'énergie demandée par ces data.
Oui, c'est ça, ils sont très inquiets. Alors évidemment, maintenant, ils ne nous le disent pas toujours en on, ils nous le disent un peu en off aussi, mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à ce niveau-là, notamment quand on sait en Belgique, en fait, le système, c'est premier arrivé, premier servi. Quand vous êtes une entreprise, vous devez réserver un nombre de térawattheures, donc c'est les mesures électriques, et donc le plan fédéral qui a prévu pour 2034 9 térawattheures uniquement pour les data centers, c'est énorme, hein, 9 térawattheures, eh bien, on se rend compte qu'en fait, les projets de data center en ont déjà réservé 19. Donc, il y a un problème entre ce que le plan fédéral prévoit et ce que les data centers ont déjà réservé. Alors, on nous dit qu'effectivement, tous les projets de data centers ne verront pas le jour et donc ce sera certainement en dessous. Mais on a un vrai problème énergique. On sait qu'aujourd'hui, la boucle du Hainaut, donc à toute cette région, parce qu'en plus, il s'intègre dans cette région qui est déjà touchée elle-même par un problème d'énergie, électrique. Et donc, il y a toute cette problématique de la boucle du Hainaut où ils sont en train d'essayer de se dire, oulala, il faut aller vite, parce qu'en fait, le réseau ne va pas aussi vite que l'implantation de ces grands GAFAM, parce qu'il y a Google, mais il y a Microsoft à Bruxelles et il y en a d'autres en Flandre. Et donc, oui, il y a un vrai enjeu énergétique. Et puis, au niveau de l'eau aussi, ça pose question. À Saint-Guilain, Google se sert dans le canal Nimy-Blaton. C'est de l'eau non potable, il la rejette. Donc, là, on est quand même sur quelque chose d'assez vert, en tout cas. Mais c'est quand même 2 milliards de litres d'eau par an qu'ils ponctionnent et qu'ils rejettent. Mais s'ils sont... Là, il est tout seul, le data. Quand ils seront 4 ou 5 dans ce coin-là, est-ce que le canal sera suffisant? Et alors, du coup, où iront-ils? Donc, ça pose toutes ces questions-là sur le long terme. Et on voit qu'à l'étranger, de plus en plus de pays pionniers sur les data centers, les États-Unis, mais aussi l'Amérique du Sud aujourd'hui, tirent plus que la sonnette d'alarme sur le fait qu'il y a des impacts très, très concrets, des gens qui se retrouvent maintenant sans eau, sans électricité, des températures qui augmentent très, très fort au Chili, notamment autour des data centers. Il y a plus 4 degrés dans certaines régions au Chili où il y a les grands hubs de data centers. Donc, voilà, c'est ça que l'enquête essaye de mettre sur la table, c'est de dire, ok économie, ok emploi, ok la Belgique a besoin d'être un hub, a besoin de se placer stratégiquement parlant, on est d'accord, voilà. Mais qu'est-ce que ça implique, avec quelles conséquences pour le citoyen?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un manque de prévision pour l'avenir ou il y a des solutions qui sont déjà sur la table et qui pourraient être avancées?
Alors, Google va vous dire qu'eux, ils ont tout prévu. C'est-à-dire qu'ils ponctionnent de l'énergie, c'est vrai, mais ils en refont l'énergie verte où ils veulent se relier aux énergies vertes. C'est vrai. Vraiment, il y a une vraie réflexion chez Google. Par contre, au niveau des autorités régionales et locales, au niveau des fournisseurs de réseau, la Belgique n'a pas l'air prête aujourd'hui. Un exemple très concret, le prochain data center qui devrait être construit, c'est à Feluy. Pour l'instant, ça a été un peu retardé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'à Feluy, ils ne pouvaient pas se mettre sur le réseau énergétique à haute tension. Et donc, ils ont dû faire une sorte de bidouillage, bricolage.
Zut, chef.
Et donc, le data center va être, pour dans un premier temps, relié à la moyenne tension, c'est-à-dire à celle sur laquelle vous-même vous êtes dans votre logement. Donc, il y a effectivement un manque de prévoyance peut-être, ou en tout cas un manque de moyens et d'investissements faits en amont pour les accueillir, quoi.
Avec aussi des études qui sont réalisées, notamment celle du Shift Project dont vous parlez, qui est un think tank français spécialisé dans la transition énergétique et qui a calculé que les centres de données pourraient tripler d'ici 2030 pour atteindre en consommation électrique 1500 TWh par an. C'est 3 fois les besoins électriques de l'Allemagne. Donc, il est effectivement grand temps d'essayer de mettre en place des choses pour que s'il y a data center qui s'implante, eh bien, il y ait effectivement suffisamment d'énergie à pourvoir sans évidemment aussi fragiliser l'énergie que l'on donne aux citoyens.
Aux citoyens. En fait, c'est ça, à un moment donné, moi j'ai un responsable qui m'a dit, mais qui n'a pas voulu être cité nommément, qui m'a dit, en fait, à un moment donné, il va falloir choisir. si ça continue comme ça, on va devoir faire le choix. Est-ce qu'on garde le data center allumé avec des contrats à des millions d'euros, hein. Google, en plus, ils ont des services juridiques. Si on les coupe, ils ne vont pas être contents. Oui. Est-ce qu'on laisse le data center allumé ou est-ce qu'on garde les hôpitaux ouverts? Ça en est à ce point-là. Et c'est des responsables haut placés ici, donc, qui se posent déjà aujourd'hui la question. Donc on voit quand même qu'il y a vraiment des réflexions. Après, est-ce qu'au niveau politique, ça embraye? Pas vraiment. En tout cas, de ce que moi j'ai constaté, de ce que Quentin et Janine et moi on a constaté, il n'y a aucun expert dans les cabinets pour les data centers, sur le numérique, il n'y en a aucun. Dans aucun niveau de pouvoir. Donc c'est un peu flippant déjà. Sur la question de quand on leur demande les chiffres officiels, on nous répond, soit il y a quelques années c'était carrément « Ah non, mais nous on ne sait pas, c'est secret professionnel ». Donc quand un ministre de tutelle dit « Je ne sais pas, c'est secret professionnel », personnellement je trouve ça questionnant journalistiquement parlant, enfin je veux dire démocratiquement parlant aussi. Aujourd'hui, ils nous ressortent parfois des études qui sont elles-mêmes réalisées par Google. Donc, ben, ça ne va pas. Donc, je crois qu'il y a de la bonne volonté du point de vue politique. Je pense qu'ils sont persuadés, et certainement en partie à juste titre, que la Belgique et que la Wallonie en particulier, et que la région du Hainaut a besoin d'un nouveau dynamisme numérique et qu'on ne loupe pas ce train-là. Ça, je crois qu'ils s'en sont persuadés et que c'est chouette. Mais que par contre, il y a un manque de vision. En tout cas, c'est ce que les spécialistes aujourd'hui nous disent. Ils détectent un manque de vision, de prévision de la part du politique et surtout un manque d'investissement criant dans les infrastructures, qu'elles soient énergétiques, électriques ou même au niveau du réseau de l'eau. On le voit, une journée pluie et Nivelles et Namur n'ont plus d'eau depuis 4 jours, qu'est-ce que ça va être quand ils vont être 30, 40, 50 data centers à pomper l'eau en plus? Enfin bon, voilà, il y a vraiment ces enjeux-là, politiques aussi, qui s'ajoutent à tous ces enjeux-là.
Parce qu'on sait déjà qu'il y a d'autres entreprises, d'autres grands centres aussi, qui projettent de s'installer en Belgique également.
Il y en a pour qui c'est quasi fait ou fait, donc Microsoft arrive, c'est à Bruxelles cette fois-ci. J'ai pas tous les détails, j'ai pas encore vraiment bossé sur ce dossier-là, mais je sais qu'ils sont en train de s'implémenter à Bruxelles. En Flandre, c'est la même chose. Donc on sait, oui, que la Belgique, par sa position géographique centrale au niveau européen, est intéressante pour Google. On voit aussi que tous ces critères que je viens de vous expliquer au niveau politique, peut-être que ça sert aussi les grandes entreprises de se dire, en Belgique, ils n'ont pas l'air trop au taquet, donc on va peut-être y aller. Bon, ça, c'est peut-être un jugement de valeur, mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, la Belgique est intéressante pour ces grandes entreprises. Et c'est chouette pour certaines choses, mais voilà, l'enquête dit que attention quand même.
Une autre question que vous soulevez, que je trouve aussi très très intéressante, c'est finalement le fonctionnement de ces data centers, parce que peut-être que dans le grand public, on imagine que c'est notre façon d'utiliser le cloud qui engendre aussi ces grandes consommations et cette grande demande. Or, les data centers aujourd'hui gèrent certes cela, mais gèrent surtout, comme vous l'avez dit, l'IA générative, mais elles servent aussi de stockage pour des entreprises belges, et c'est la même chose dans d'autres pays. Et donc, ce fonctionnement des data centers, c'est aussi intéressant d'expliquer finalement à quoi ils servent, comment ils fonctionnent aujourd'hui et pour qui ils fonctionnent.
Oui, c'est intéressant. Et là aussi, de nouveau, il y a un manque de transparence puisque, je répète, on a été interdit de rentrer dans un data center Google. Donc c'est un peu compliqué à expliquer. Là aussi, on a dû gratter, etc. Mais ça pose aussi la question de la souveraineté numérique. L'Europe, hier, présentait un plan sur la souveraineté numérique en disant qu'il faut qu'il y ait des entreprises, des data centers européens, etc. Et donc on voit que par contre, il n'y a pas qu'en Belgique, en France aussi, Google est en train de s'implémenter dans plein de régions hyper reculées, etc. Donc on a un double discours. On a d'un côté le niveau européen qui dit il faut une souveraineté numérique, et puis au niveau national, on a un discours de oui, ok, effectivement, mais en même temps, ça nous rapporte des sous, parce que ça rapporte des sous, quand même, on pourra en parler si vous voulez. Donc il y a cette chose-là. Et donc quelle est la souveraineté numérique que la Wallonie et que la Belgique gardent aujourd'hui avec ces nouveaux acteurs qui arrivent? On peut se poser la question, parce que dans ces data centers, il y a effectivement des données qui sont des données des Belges. Il y a vous, ce matin, quand vous avez cherché combien d'œufs il fallait pour votre free data.
Mais il y a aussi...
Mais il y a aussi certainement pas mal de données françaises, allemandes, britanniques, parce qu'en plus, ils sont tous reliés entre eux. C'est-à-dire que les centres ici en Belgique sont reliés aux centres néerlandais, aux Pays-Bas. Comme ça, s'il y a un crash d'un d'entre eux, rien n'est perdu, tout est machin. Mais donc, ça veut dire que transite chez nous en Belgique, en consommant toute cette énergie, des données qui ne nous concernent même pas. Donc ça aussi, ça pose question.
Avec également la possibilité d'imaginer, s'il y avait plus de transparence, la volonté de travailler chacun de leur côté, puisque l'Europe impose quand même une série aussi de critères auxquels Google dit vouloir effectivement répondre, puisqu'ils le disent. Alors, je ne vais pas me positionner là-dessus, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. 80% de l'énergie qu'ils consomment serait décarbonisée. En tout cas, ça semble être visiblement une volonté. Pas suffisamment de réponses en face. À qui profite le crime? Parce que vous avez dit ça rapporte. Mais est-ce que ça rapporte, par exemple, aux petites communes qui entourent la présence de ces data centers, ou est-ce que ça rapporte plutôt au privé? Ça rapporte au public qui en bénéficie, finalement?
Alors, il y a une partie des chiffres qui sont publics, l'impôt. Oui. Ça, c'est tout à fait... Donc, Google paye ses impôts en Belgique et il paye beaucoup. Donc, ça, c'est très clair. Après, par contre, il y a une partie des chiffres, de nouveau, qui sont cachés. Nous avons essayé de savoir combien est-ce que la commune de Saint-Guilain recevait d'argent grâce à la présence de Google pour différentes taxes. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais quand on a des terrains de cette taille-là, il y a un précompte immobilier, il y a des taxes foncières, il y a le prix du terrain, etc. Et puis, il y a toute une série de taxes aussi très intéressantes, comme la taxe motrice. Et donc, on a posé la question à Saint-Guilain. On n'a eu aucune réponse. Mmh. On avait des contacts avec un échevin. On nous a appris que l'échevin, on lui avait dit « tu réponds plus ». Donc, on sait que ça rapporte combien, on ne sait pas. Je sais qu'on a certains chiffres, mais on ne peut pas les cibler uniquement sur Google. Et donc, c'est ça aussi qui est difficile, journalistiquement parlant, c'est dans cette enquête. Je crois que j'ai rarement eu, dans mes enquêtes, ces 20 dernières années que je travaille comme journaliste, autant de manque de transparence, autant de bâtons dans les roues, rien d'agressif, mais... Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont répondu par mail des langues de bois, des trucs à côté de la plaque, où je me suis dit, mais tu ne réponds pas à la question. Donc je renvoyais un mail en disant, mais vous ne répondez pas. Enfin, donc voilà, donc ça a été vraiment, on en plaisante avec les deux journalistes avec lesquels j'ai travaillé, mais il y a eu une perte de temps énorme dans cette enquête, notamment parce que, voilà, mais ça, les grandes entreprises américaines sont habitués à ça et en jouent un peu. Enfin, moi, je vois bien mes collègues français avec qui j'ai discuté, les collègues néerlandais ou allemands, pareil. En fait, ils nous répondent de la com à la Google, à l'américaine, etc. Et vous le disiez, il y a 80% d'énergie. Donc, Google n'est pas un grand méchant. Mais il y a des questions qui doivent être posées et pour l'instant, ni Google ni les autorités n'y répondent. Quoi.
Et donc, il faut combien d'œufs pour une frittata, alors, finalement?
Je ne sais pas, je n'utilise pas l'IA générative pour ce genre de questions.
Bon. Ça rame toujours.
Ah oui. On a coupé le courant chez Google.
Maïté Warland, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce dossier Google en Wallonie, les centres de données mettent la Belgique sous tension. Un dossier réalisé avec Quentin Noirfalis et Janine Meyer. Et on rappelle que Médor est disponible bien sûr en kiosque. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Membre aussi d'ailleurs du collectif kiosque pluriel, que ce collectif de médias belges francophones libres qui répondent tous à un ensemble de valeurs pour défendre un journalisme de qualité, d'investigation également. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leurs sites respectifs.